Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Ce sera pour l'année prochaine l'ouverture à la concurrence des chemins de fer français. Une vraie révolution qui découle des directives européennes. Pour l'instant, seules deux lignes à l'international, Paris-Venise et Marseille-Milan, sont aux mains d'un opérateur franco-italien, Tello. Mais bientôt, ce sera possible pour les trains régionaux, puis les TGV. D'où la nécessité de bouger les lignes dans le statut de la Société nationale des chemins de fer, en situation de monopole depuis 80 ans. La réforme de la SNCF et les conditions de travail des cheminots, c'était un des grands chantiers qui ont marqué l'année sociale 2018. Retour sur un projet de loi qui a provoqué une grève de plus de 3 mois signé David Bachet.
Les cheminots, et ils sont chauds, et ils sont chauds, et ils sont chauds, les cheminots.
Le gouvernement dévoile son projet de réforme de la SNCF, baptisé « Nouveau pacte ferroviaire » fin février. Rapidement, les syndicats lancent leur mouvement de protestation. Ils contestent notamment l'ouverture à la concurrence du transport de voyageurs, la transformation de la SNCF en société anonyme, qui ouvre la voie, selon eux, à une privatisation de l'entreprise, ou encore la suppression pour tous les nouveaux embauchés du statut des cheminots. Emploi garanti, avantages sur les congés et les jours de repos notamment. Pour les cheminots, cette réforme et sa logique sont purement inacceptables.
Emmanuel Macron qui dit « c'est pas possible que les cheminots gardent leurs privilèges, nous faire passer de nous pour des privilégiés ». Un aiguilleur touche 1290 euros net par mois. Il travaille les jours fériés, il travaille les week-ends, il travaille de nuit.
Oui, moi en tant que cheminote, j'ai pas envie de subir tous les reculs que le gouvernement veut nous faire subir. Si le gouvernement veut faire plier les cheminots aujourd'hui, c'est pour pouvoir après faire plier tous les travailleurs dans tous les domaines.
Il y a aussi la question d'avoir une vraie qualité de service rendue aux usagers en termes d'aménagement du territoire, en termes d'équité d'accès, qu'elle soit tarifaire ou géographique. Finalement, c'est un enjeu aussi de société.
Les syndicats reprochent au gouvernement de n'organiser que des simulacres de concertation. Exigeant le retrait du projet de loi, les cheminots enclenchent début avril une formule inédite. Ils alternent 2 jours de grève et 3 jours de travail. Pendant plus de 3 mois, ils perturbent périodiquement et très fortement la circulation des trains. Mais le gouvernement garde sa ligne et le Premier ministre Édouard Philippe le revendique.
Cette réforme pour le transport ferroviaire, ce n'est pas une réforme contre les cheminots. Respecter les cheminots, ce n'est pas faire semblant que tout va bien. Il faut regarder la situation de l'entreprise avec lucidité et elle n'est pas satisfaisante. J'ai donc rappelé aux organisations syndicales que le gouvernement avait pris 3 décisions sur lesquelles nous ne reviendrions pas. L'ouverture à la concurrence, la fin du recrutement au statut au 1er janvier 2020, le changement du statut de l'entreprise au 1er janvier 2020, je veux être très clair sur la fermeté que j'ai exprimée et que j'assume pleinement.
D'autres secteurs se joignent à certaines manifestations, énergie, éboueurs, étudiants, mais la convergence des luttes ne prend qu'à moitié. Le gouvernement voit le bout du tunnel en juin, le texte est finalement adopté. Le gouvernement a accepté de reprendre à son compte 35 milliards d'euros de dettes de l'entreprise sur un total de plus de 46 milliards. Les investissements de modernisation du réseau sont revus à la hausse. Quelques garanties sont accordées aux salariés qui seront transférés vers un concurrent privé. Mais le statut des cheminots est bien condamné à disparaître et des entreprises privées pourront transporter les voyageurs sur les rails de France dès janvier 2020. Dans les faits, l'arrivée de la concurrence privée pourrait prendre bien plus de temps. Yves Crozet est économiste à l'Université de Lyon, membre du laboratoire Aménagement Économie Transport.
Il va y avoir un délai éventuellement important entre la date officielle d'ouverture à la concurrence et l'arrivée des premiers trains non SNCF sur le réseau. Pour la simple raison qu'il faut que les régions acceptent de demander à des concurrents de réaliser tout ou plutôt une partie du service dans une région. Et ça, vous pensez bien que du point de vue politique, pour un président de région, c'est extrêmement risqué, puisqu'il aura immédiatement en face de son conseil régional des manifestations de protestation des syndicats de la SNCF et du secteur public pour dire qu'on est en train de brader le service public.
L'idée, c'est de ne pas reproduire au niveau régional le bras de fer qui s'est tenu cette année au niveau national.
Et ben voilà.
Pour les TGV sur les lignes nationales, la concurrence sera ouverte un an plus tard, en janvier 2021. Dans ce cas, les concurrents de la SNCF pourront se présenter spontanément, mais pas facilement pour autant. Yves Crozet.
Il y a tout un tas d'obstacles techniques, d'obstacles réglementaires. Il faut avoir le matériel, il faut avoir les conducteurs. Le système de signalisation sur les TGV français n'est pas disponible sur le marché.
Dernier point, des négociations sont en cours entre professionnels et syndicats sur la convention collective du secteur. Après la suppression de leur statut, c'est là le dernier espoir des cheminots de préserver certains de leurs avantages.
D'ailleurs, en Europe, les chemins de fer se sont déjà ouverts à la concurrence et au privé au Royaume-Uni, en Italie, en Suède, aux Pays-Bas et bien sûr en Allemagne, la Deutsche Bahn qui a servi de modèle pour la réforme de la SNCF. Il faut dire que la compagnie allemande a quelques trains d'avance puisqu'elle a perdu son monopole en 1994. Dans les faits, sur les grandes lignes, il y a très peu de concurrence, mais sur le réseau régional, c'est autre chose. Un quart des lignes sont exploités par 450 entreprises privées. L'Allemagne s'imposerait donc comme un modèle à suivre. Mais 25 ans après, on compte un record de trains qui n'arrive pas à l'heure. Les voyageurs sont mécontents et la dette de la compagnie est abyssale. Les explications à Berlin de Julien Méchossi.
Il y a d'abord les chiffres qui donnent raison au gouvernement français. Depuis 1994, la fréquentation des voyageurs a augmenté de plus de 30%, avec ce record établi en 2017 de 2 milliards de passagers. Et la même année, la Deutsche Bahn a même dégagé un bénéfice avant impôt de 2,1 milliards d'euros. Et puis il y a un autre chiffre qui fâche, celui de la dette de la compagnie ferroviaire, plus de 20 milliards d'euros. Résultat, l'État fédéral a dû plusieurs fois renflouer les caisses avant de dire stop à la fin de l'année dernière. Une dette qui est la conséquence indirecte de l'ouverture à la concurrence. À la fin des années 90, les managers de la Deutsche Bahn se sont mis en tête de faire entrer la société en bourse. Cette ambition a entraîné d'une part une coûteuse politique d'acquisition à l'étranger et d'autre part de fortes économies sur les investissements concernant les infrastructures. L'objectif était alors de rassurer les marchés avec un positionnement fort à l'international et des comptes dans le vert. Mais la Deutsche Bahn n'a pas pu tenir ce pari et n'a jamais réussi à réunir les conditions pour profiter de l'argent de futurs actionnaires. Si cette politique a été abandonnée il y a plusieurs années, les voyageurs en font toujours les frais aujourd'hui avec un réseau vétuste. Quelques flocons de neige ou un mercure élevé suffisent pour que les trains ne puissent pas rouler. Alors qu'un train à grande vitesse sur quatre est en retard et que les prix pratiqués restent bien au-dessus de la moyenne européenne.
La fuite des cerveaux, ce n'est pas seulement une réalité en Albanie, c'est un fléau. Les candidats au départ ont pourtant une probabilité proche de zéro d'obtenir le statut de réfugié dans un pays européen. Mais qu'importe, il faut partir parce qu'aucune promesse ne vous retient au pays, surtout pour les jeunes qui sont en plus pénalisés par des frais universitaires rédhibitoires. Bonjour Louis Seyé, vous êtes notre correspondant à Tirana en Albanie. Le pays se vide de ses habitants et cela concerne aussi bien les professionnels que les étudiants.
Oui, entre 2011 et 2017, c'est près de 12% de la population totale qui a quitté le pays et pour la première fois de son histoire, la population albanaise régresse. Selon un sondage, 80% des jeunes albanais veulent quitter leur pays plus que jamais. C'est l'Allemagne qui fait figure d'Eldorado. À Tirana, on compte quelques 150 centres de langue et l'allemand arrive en tête des choix. Écoutez Ferida que j'ai rencontrée. Elle a 19 ans et elle a bien l'intention d'aller poursuivre ses études à Berlin ou à Hambourg.
Je veux étudier en Allemagne ou tout simplement pouvoir y travailler, avoir une vie meilleure que celle que je pourrais avoir ici. En Albanie, il n'y a pas de travail, surtout pour nous, les étudiants. Même avoir un petit boulot dans les centres d'appel, c'est devenu plus compliqué.
Marcela Likai, responsable du département d'allemand à l'université, le confirme. L'intérêt des étudiants a explosé au cours des dernières années.
Die Zahl Le nombre de candidatures que nous recevons a énormément augmenté. Aujourd'hui, le nombre total de personnes qui veulent étudier l'allemand est très important et nous sommes obligés de faire une sélection. Cet intérêt pour l'allemand a fait un bond ces deux dernières années.
Alors, une des motivations des étudiants, Louis, réside dans le coût des études. Finalement, ça ne reviendrait pas si cher de s'expatrier pour étudier en Allemagne.
Oui, bien sûr, il y a le coût du voyage et du logement, mais il faut savoir que le coût des études en Albanie est très élevé. Près de 1500 euros par an pour certains masters des universités publiques. C'est presque autant que le salaire minimum annuel, qui franchit péniblement la barre des 2000 euros. En Allemagne ou ailleurs, les frais d'inscription à l'université sont minimes. Écoutez les explications de Marcella Likai.
De nombreux élèves voient en l'Allemagne un lieu où poursuivre leur formation après leur licence ici. Ceci est peut-être lié au fait que les frais d'inscription des universités allemandes n'y sont pas très élevés. Beaucoup se disent qu'ils peuvent y continuer leurs études, par exemple en master de communication.
Une analyse que confirme le sociologue Arlene Chori.
Certains de mes anciens étudiants font leur master en Europe de l'Ouest et ils ne paient rien. En plus des frais d'inscription très bas, ils ont obtenu des bourses pour leurs études. S'ils étaient restés en Albanie, cela leur coûterait très cher. En résumé, ils vont dans des pays qui fonctionnent mieux, avec de meilleurs systèmes d'éducation et cela leur coûte moins cher.
Les étudiants rêvent donc de s'expatrier, mais pour les autres, plus âgés, ce n'est pas si facile car les demandes d'asile pour les Albanais sont presque systématiquement refusées en Europe.
Oui, le taux d'acceptation est tombé à 0,6% en Allemagne et à 6% en France. En 2015, Orgest, un jeune Albanais de 30 ans, avait tenté sa chance. En vain.
Il y a 3 ans, j'ai demandé l'asile en Allemagne et j'y suis resté 8 mois. C'est là que j'ai commencé à apprendre l'allemand en suivant une formation de programmation informatique. Mais ma demande d'asile n'a pas abouti faute de raisons valables et j'ai dû retourner en Albanie.
Italien, anglais, espagnol, comme beaucoup d'Albanais, Orgest maîtrise déjà plusieurs langues étrangères. Aujourd'hui, il suit des cours d'allemand dans un centre de formation municipal et il espère bien obtenir son certificat de langue.
Mon objectif, c'est de retourner en Allemagne et d'y étudier l'informatique. Ce n'est pas évident, surtout financièrement, car ça coûte cher. Avec la langue, c'est aussi compliqué, car pour étudier à l'université, il faut un très bon niveau d'allemand, minimum B2. Et c'est vraiment difficile d'apprendre une langue aussi compliquée que l'allemand en vivant dans un autre pays.
Pour atteindre ses objectifs, Orgest a décidé de s'endetter auprès de sa sœur qui vit en Grèce. Il compte sur son futur emploi d'informaticien en Allemagne pour la rembourser.
Et si ce jeune Albanais Orgest veut partir, ce n'est pas seulement parce que l'économie va mal.
Oui, l'économie va mal, le taux de chômage chez les jeunes est de 23%, mais surtout, c'est tout le système clientéliste qui ne permet pas aux jeunes d'avoir accès à l'emploi. On écoute Orgest.
La méritocratie, ça ne marche pas ici. Quand je dis ça, je parle d'un marché de l'emploi basé sur tes compétences et tes expériences. Ça ne marche pas en Albanie. Pour obtenir un véritable emploi ici, tu dois soit avoir un ami, soit payer pour l'obtenir, ou soit être membre d'un parti politique.
La corruption et le clientélisme, mais aussi les salaires les plus bas d'Europe. Fatigués d'attendre des changements qui ne viennent pas, les jeunes diplômés continuent de quitter l'Albanie. Cet exode des cerveaux touche particulièrement le personnel médical. Le sociologue Arlene Chori.
C'est une préoccupation aujourd'hui en Albanie. Le pays se vide de ses médecins, de ses spécialistes médicaux. Pour eux, c'est plus facile d'émigrer et de passer les tests pour un permis de travail, car les médecins et les infirmiers sont très recherchés aujourd'hui en Allemagne. Certains partent en tant que médecins, mais sont prêts à accepter des emplois moins qualifiés.
Ce nouvel exode des professionnels de santé pose aujourd'hui de gros problèmes vitaux en Albanie. Faute de médecins, de nombreux hôpitaux du pays ne peuvent plus assurer leurs services.
La flambée de l'immobilier les a consacrés, les garde-meubles ont la cote à Londres. Le nombre d'espaces de stockage a doublé en 10 ans et ils sont désormais implantés près du centre de la capitale car les locataires l'utilisent presque comme une pièce supplémentaire. À Londres, Marie Billon.
Coincé entre un fast-food et un restaurant asiatique se dresse un garde-meuble flambant neuf, rouge et blanc. Nous sommes ici à Deptford, à l'est de Londres, tout près du quartier jeune et branché de Greenwich. À 9 minutes à pied seulement, il y a une autre de ces constructions prête à accueillir meubles et cartons pour un temps indéterminé. La présence, la concentration ici de self-storage, comme on dit en anglais, n'est pas un hasard. Le prix moyen d'un deux pièces à Greenwich est de 600 000 euros à l'achat et de 1780 mensuels à la location. ans. Autant dire que l'acquisition d'un 3 pièces est plutôt de l'ordre de la science-fiction pour beaucoup de jeunes londoniens. Le salut est donc dans le garde-meuble. Qu'ils vivent en colocation ou en couple, voire en famille dans un petit appartement étriqué, c'est une solution à laquelle quelques 175 700 particuliers auraient recours, selon les chiffres de l'association des garde-meubles. Et ce ne sont pas que des tanguis frustrés qui se refusent à se débarrasser de leurs peluches et de leurs Lego. 23% viennent chercher quelque chose dans leur garde-meuble chaque semaine. Garde-meuble donc ou placard éloigné, hein, c'est blanc bonnet et bonnet blanc apparemment. Mais l'étroitesse des logements n'est pas la seule raison. Les entasseurs compulsifs n'hésitent pas à dépenser entre 90 et 160 euros par mois pour ne pas se forcer à trier. Les déménagements fréquents sont aussi une des causes du boom du garde-meuble et les divorces. L'explication sans doute à une clause que l'on retrouve dans les conditions d'utilisation d'une entreprise de Birmingham qui demande aux clients de certifier qu'ils n'y rangent aucun bien périssable ou vivant, plantes et ex compris. Un peu d'humour donc dans un monde où se loger relève du casse-tête.
L'année 2019 commence à peine et il est encore temps de se pencher sur les beaux disques parus en 2018. Avec vous, Vincent Teval, bonjour.
Bonjour Frédéric. Et oui, parmi ces beaux disques, il y a celui de Distance, Light and Sky. Un duo formé voilà 5 ans par un Américain installé en Slovénie et une Hollandaise basée à Anvers. L'Américain, c'est Chris Ekman, fondateur au milieu des années 80 d'un groupe très important dans le renouveau du folk aux États-Unis, The Walkabouts. Le groupe n'existe plus et Chris Ekman vit depuis près de 20 ans à Ljubljana. Quant à la Hollandaise, c'est Chantal Agda, merveilleuse chanteuse, auteure de 3 albums somptueux. Les deux artistes se sont retrouvés en 2018 pour enregistrer un deuxième album, partagé entre des chansons à la douceur cotonneuse et d'autres aux sonorités un peu plus saillantes.
Europe était réalisé aujourd'hui par Mathias Taylor. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et sur les réseaux sociaux. Restez à l'écoute de RFI.